plateforme. Les sciences humaines.
Cité des sciences et de l'industrie. Parole de Gaulois. Les Gaulois, façonneurs de paysages. Avec François Malerin.
Alors j'ai intitulé de cette manière ma conférence « Les Gaulois façonneurs de paysages » pour m'inscrire pleinement dans cette exposition et pour renverser cette idée reçue de Gaulois vivant au fond de forêts ténébreuses. Alors vous avez sur cette image que j'ai empruntée au Vercingétorix de Héron de Villefosse une représentation de ces Gaulois tels qu'on pouvait les imaginer en 1937. Alors, on voit une forêt très sombre, très ténébreuse, avec au fond quelques petites cabanes, de pauvres huttes dans lesquelles étaient censés vivre ces Gaulois. Au premier plan, on a une scène de chasse. Alors, si effectivement les archéologues de ces époques ne pouvaient pas controverser cette image, c'est tout simplement parce que les investigations au sol n'avaient pas commencé. Ils n'avaient donc à leur disposition que l'ouvrage de César, « La guerre des Gaules », dans lequel l'auteur mentionne différentes sortes d'habitats, parmi lesquels on trouve les edificia, qui sont mentionnés une vingtaine de fois. Alors les traducteurs ont traduit ce terme de différentes manières, soit ils l'ont appelé des fermes, des bâtiments isolés, des granges ou encore des hameaux. Alors faute de fouilles proprement parlées, il était impossible de donner une véritable image de ces habitats gaulois. Quelques décennies plus tard, l'évolution aura quelque peu changé, l'image aura quelque peu évolué. On est ici dans une représentation qui ornait les murs des classes, c'est une affiche rossignol que certainement beaucoup d'entre vous ont connue. Alors, les Gaulois sont présentés cette fois non plus comme vivant au fond de sombres forêts, mais dans des petites clairières qu'ils ont préalablement défrichées. Et cette image connaît déjà une certaine évolution par rapport à la précédente, avec déjà deux activités auxquelles étaient censés se confronter les Gaulois, l'élevage et la culture. Donc l'élevage représenté au premier plan par ces porcs qui avoisinent au bord des maisons, et les cultures avec une scène de travail à l'arrière que l'on distingue au fond. Et des Gaulois déjà beaucoup plus civilisés parce qu'ils déjeunent à table. Pendant très longtemps, cette image ne pourra pas être controversée et évoluée. En fait, il faudra attendre la fin des années 60 et début des années 70 pour qu'une nouvelle technique, celle de la photographie aérienne, révèle un paysage gaulois bien plus important que ce qu'on le supposait jusqu'alors. Alors, cette technique n'est pas une invention française. Elle s'est développée outre-Manche, en Angleterre, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont les généraux anglais qui, lors de la recherche des lignes ennemies, se sont aperçus qu'il y avait de vastes empreintes inscrites dans le sol. Et ils ont eu l'idée de les photographier, car ils ont rapidement interprété comme des anciens habitats, des traces d'anciens habitats. Et ces traces ont vite, dans ce pays, été intégrées à la cartographie archéologique. En France, il faudra attendre donc le début des années 70 pour que cette technique se développe considérablement. On la doit surtout à un prospecteur aérien picard qui s'appelait Roger Agache et qui, à bord d'un petit Cessna ou d'un avion touristique, survolait les vastes plaines de la Picardie à la recherche des Villae qui étaient en fait son sujet de recherche principal. Il s'intéressait plutôt au monde romain plutôt qu'au monde gaulois. Mais très rapidement, il s'est aperçu qu'à proximité de ces villae gallo-romaines, il y avait aussi d'autres traces qui étaient soit en dessous ou à proximité immédiate, voire très éloignées de ces dernières. Et donc, il les a également photographiées et il a décidé de les traduire par « ferme indigène », qui est en fait la traduction littérale de « native farm » qu'utilisaient les Anglais. Alors, on remarque encore, malgré tout, le petit côté légèrement péjoratif du terme « indigène », plutôt que de les appeler simplement fermes. Donc, ces sites laissent de fortes empreintes dans le sol parce que les aménageurs gaulois ont préalablement, pour installer leur site, creusent des fossés. Et au fur et à mesure que ces sites vont se combler, qu'ils vont être abandonnés, on aura une humidité qui va être beaucoup plus importante dans les anciennes structures. Et c'est à ces emplacements que les végétaux vont davantage se développer et qui seront beaucoup plus verts et beaucoup plus forts. Et c'est de cette manière qu'on les voit si parfaitement dans le paysage. Alors il faudra encore attendre quelques décennies pour que les fouilles au sol, proprement dites, soient réellement entreprises. Et on doit cette impulsion principalement à l'archéologie préventive. Alors je pense qu'au cours des différents exposés qui vous ont été présentés, on vous a un peu décrit cette archéologie. C'est une archéologie qui intervient en amont des grands travaux d'aménagement du territoire, que sont les routes, les autoroutes, les TGV ou les ZAC, ou encore les lotissements comme ici, dont l'avancée de ce lotissement va irrémédiablement détruire un ancien site gaulois qui se manifeste par la présence des fossés que l'on distingue ici. Sur ce site que j'ai eu le privilège de fouiller dans la Somme et qui avait préalablement fait l'objet d'une photographie aérienne de Roger Agache, j'ai eu le plaisir de pouvoir décaper sur une très vaste superficie. Ici, c'est 12 hectares d'un seul tenant qui ont été décapés de manière à fouiller le site. Alors, vous allez me dire qu'en fait, il y a peu de contraste entre ce sol décapé et qu'à la limite, il est moins parlant que la photographie aérienne. Mais bien évidemment, c'est la fouille de l'ensemble des structures de ce site qui nous permettra d'avoir une vision quasiment ethnologique du fonctionnement d'un établissement rural. Alors, là aussi, l'archéologie contemporaine n'est pas exempte de critiques, car on fouille principalement sur les lieux de vie des habitants. C'est ce que j'ai qualifié d'enclos domestique, donc en quelque sorte le corps de ferme, mais très peu sur les limites parcellaires qui délimitaient les champs et les parcelles dévolues également à l'élevage. Et donc, on est obligé de s'efforcer à faire des calculs théoriques pour savoir combien d'hectares une ferme exploitée à cette période. Donc, premier aménagement que vont faire nos Gaulois lorsqu'ils vont s'installer, ça va être le creusement d'un fossé. En fait, dès le 3e siècle avant, et parfois plus anciennement comme en Bretagne dès le 5e, le fossé sera la principale caractéristique des sites gaulois. Alors, ils en servent aussi bien les établissements agricoles que les villes, que les sanctuaires. Et je vous présenterai ces différentes catégories d'habitats au fur et à mesure de cet exposé. Alors, bien évidemment, avant de pouvoir s'installer, il convient de défricher. Alors, soit la surface avait été déjà mise en culture anciennement. Je vous rappelle que la sédentarisation date du néolithique, donc quelques millénaires auparavant. Soit l'espace était encore en forêt et il fallait abattre ces forêts pour pouvoir s'installer. Alors là, déjà, rien que pour la création d'un enclos d'habitat, dont les surfaces avoisinent 5000 m² en moyenne, mais font plus généralement autour de 10 000 m², soit un hectare, il faut déjà avoir une pression sur le milieu déjà assez forte pour pouvoir s'installer. Donc, pour creuser leur fossé, les Gaulois utilisent des outils qui sont encore ceux qui étaient en usage avant la révolution industrielle. Et vous pouvez constater sur cette photographie que les fossés peuvent avoir des amplitudes absolument importantes. Ils peuvent faire plusieurs mètres de large et plusieurs mètres de profondeur. Ici, on a 5 mètres de large et 3 mètres de profondeur au minimum. Et en fait, ceci va nous renseigner directement sur le statut social de l'occupant. En effet, plus le fossé sera large et plus il sera profond, et plus la personne qui sera le bénéficiaire des lieux aura un statut élevé dans la société. En fait, il s'agit manifestement de signes ostentatoires. Donc, vous avez vu au préalable sur ce cliché que les fossés sont parfois petits et peu profonds, et on verra au cours de cet exposé que la résidence de ce Gaulois était bien modeste. Alors, comment ces Gaulois pratiquaient-ils pour tracer l'enclos? Parce que, bien évidemment, ils ne vont pas se lancer au hasard dans la construction d'un fossé sans savoir précisément où ils vont. Alors, pour cela, ils utilisaient manifestement un système tout simple qui consiste à placer deux cordeaux tenus entre deux piquets et à l'aide d'une ficelle et par des règles trigonométriques de reporter des points qui vont tracer le futur enclos. Alors, vous avez à côté, et ce n'est pas un effet du hasard, un site que j'ai également fouillé, qui montre parfaitement la même adaptation de plan que ce qu'on peut obtenir à l'aide de ces cordeaux. Alors, pour nous, c'est un inconvénient, parce qu'il est bien évident que quand les Gaulois vont creuser ces fossés, ils vont effacer les traces qu'ils ont créées préalablement pour suivre le tracé et savoir précisément là où ils allaient creuser. Toutefois, sur ce même site, On a eu la chance, ce site était encore parfaitement conservé sous couvert forestier, c'est-à-dire que la forêt avait fossilisé à la fois le talus qui est créé par le creusement du fossé, et le fossé se marquait encore par une légère dépression. Donc on a eu l'idée de faire un prélèvement entre les terres de ce talus et le substrat naturel. Et l'analyse de ces prélèvements, grâce à des nouvelles recherches que sont la sédimentologie, la pédologie, etc., qui viennent nourrir l'archéologie, on a pu constater que là où les terres allaient être entreposées, il n'y avait pas de végétaux. C'est-à-dire que toute la surface où ces terres étaient censées être déposées avait été préalablement entièrement décapées, donc les végétaux enlevés, de façon à pouvoir y stocker les terres. Alors, ça a un double avantage, c'est que les terres nouvellement creusées vont bien mieux adhérer sur un sol mis à nu, et également de bénéficier de modes de végétaux qui, une fois que le talus est en élévation, va permettre, en les replaçant sur ses parois, de maintenir les parois et d'éviter que les terres ne retombent directement dans le fossé. Donc, une certaine ingéniosité de nos Gaulois. Mais sur cette diapositive, on remarque également des traces, des traces blanches qui bordent les parois du fossé. On est là en vue planimétrique au fond d'un fossé et à l'angle, un poteau est carré. Ce qui signifie qu'en fait, l'intégralité des parois de ce fossé ont été planchéiées avec des planches de bois de façon à en maintenir également les parois. Donc des travaux colossaux pour aménager cet habitat. L'ingéniosité des Gaulois en manière de construction se manifeste aussi par l'usage d'outils de nivellement. Et sur ce site, on a fait des prises d'altitude systématiques au fond des fossés et on s'est rendu compte qu'il y avait des pendages qui convergeaient vers des points précis qui étaient légèrement surcreusés. Et quand on a placé les bâtiments à l'intérieur de l'enclos, et nous y reviendrons après, on s'est rendu compte que ces points d'eau étaient à proximité des constructions, des maisons et des annexes. Ce qui est bien utile, avouons-le, d'avoir de l'eau à proximité, de l'eau courante à proximité, plutôt que de devoir aller la chercher dans la vallée, surtout quand on habite sur un plateau, comme c'est le cas pour ce site. Alors, jusque récemment, on supposait l'usage de tracés d'architectes ou de plans préalablement établis. Et j'ai emprunté cette pierre gravée à mon collègue Mathieu Pou, qui vous a donné une conférence, je crois, qui est issue du site de Coran sur lequel il fouille, et où on a un plan sommairement gravé dans cette pierre et qui correspond au temple qu'il a pu fouiller sur ce site, dont nous aurons des illustrations ultérieurement. Alors, pour pénétrer au sein de ces enclos, qui définissent des surfaces donc de 5000 mètres à 1 hectare, soit c'est une simple interruption de fossé qui va marquer les portes, et on est là dans le cadre des habitats les plus pauvres, soit, comme sur cette diapositive, on va mettre des pierres, un aménagement construit sous forme de muret, de façon à pouvoir y pénétrer sans problème. Sur des sites de statut plus élevé, ces portes seront aménagées sous forme d'un porche ou d'une porte construite à l'aide de poteaux qui permettra de surveiller et de contrôler tous les accès à l'intérieur de l'établissement. Donc, en récapitulant un petit peu, plus l'habitat est hiérarchiquement élevé, plus ces fossés sont larges et profonds, et plus il sera élevé dans cette hiérarchie, et plus son système d'entrée sera sophistiqué. À l'intérieur de l'enclos, les bâtiments ne se distribuent pas au hasard. Ils avoisinent généralement au bord des fossés. C'est un double avantage, c'est qu'une fois que le talus est recouvert de végétation, parfois il est même planté de haies, et ça c'est la palynologie qui nous renseigne. Donc la palynologie, c'est l'étude des pollens. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que les fossés se gomblaient, on avait de plus en plus de taux de pollen de noisetier, par exemple, ce qui permet de bénéficier de petites récoltes à proximité, donc les noisettes ou des fruits sauvages, mais également d'avoir une haie d'arbres. Et ces haies d'arbres permettent de protéger, de dissimuler les habitats, donc ils sont moins facilement visibles, mais également de les protéger des vents qui, parfois, dans les régions du Nord, soufflent copieusement. Donc à l'intérieur de ces enclos, on a plusieurs unités domestiques, plusieurs maisons qui vont voisiner les unes à côté des autres. ainsi que les structures, les annexes nécessaires à la vie de l'établissement. Alors ces annexes, elles sont dédiées, vouées au stockage des céréales. Alors vous avez ici les deux modes principaux de stockage utilisés à cette époque. D'une part, le grenier sur poteau et le silo. Je parlerai en premier lieu du silo. Le silo, c'est une structure qui est assez caractéristique, que l'on trouve sur de nombreux sites. C'est un peu, si vous voulez, comme notre frigidaire actuel. Ça permet de bénéficier des récoltes à proximité. Elles se reconnaissent sous la forme de fosses qui sont creusées dans le sol et en forme de cloche. Dans ces silos, on va déposer l'intégralité de la récolte en vrac. Et ce sont les grains qui sont à proximité des parois qui vont dégager énormément de gaz carbonique et qui vont former une croûte en contact avec le sol naturel qui va permettre de préserver le reste de la récolte. Une fois que que les grains sont mis dans cette structure, et bien évidemment, on met un bouchon d'argile de manière à les protéger et à les éloigner de l'humidité. Alors ça a l'avantage certain de dissimuler cette récolte aux yeux d'attaquants possibles, par exemple, mais ça constitue aussi des réserves qui peuvent être gardées sur du long terme, sur plusieurs années, jusqu'à 5 années au minimum, sans que les grains perdent leur qualité nutritive et ou de germination. L'inconvénient de cette structure, c'est qu'une fois qu'on enlève le bouchon d'argile pour puiser les récoltes à l'intérieur, il faut le vider intégralement et rapidement, sinon les grains pourrissent très rapidement. L'autre structure de stockage est le grenier. Alors celui-ci, ce sont des bâtiments que vous avez peut-être vus lors de voyages ou de vacances en France, mais qui servent dans d'autres régions de Colombier. Je pense à des bâtiments qui sont construits en Dordogne, par exemple, qui sont élevés sur poteaux avec des disques de pierre, mais qui servent là pour les pigeons. À cette période, ces bâtiments sont aussi construits sur poteaux, de manière et isoler du sol, de manière à isoler ce qui est entreposé à l'intérieur de l'humidité. Alors l'avantage de ces greniers, c'est qu'on peut y accéder autant de fois qu'on veut pour prélever la part d'aliments dont on a besoin pour se nourrir. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut aller fréquemment brasser le grain à l'intérieur, sinon il moisit également. Alors comment sait-on que ces structures conservaient des grains ? Sur certains sites, on a eu la chance de les trouver entièrement incendiés lors d'un incendie qui avait affecté tout le site. Et en brûlant, ces greniers s'effondrent et les graines se sont déversées dans le fossé mitoyen de ce bâtiment. Et donc on a prélevé soigneusement énormément d'échantillons de terre de manière à les tamiser et à retrouver ces graines. Les graines se conservent parfaitement quand elles sont carbonisées. Et donc, sur le site de Jaulx-le-Camp-du-Roi, dans l'Oise, on a pu ainsi mettre en évidence que le grenier qui était incendié avait contenu à la fois de l'avoine et du blé, qui étaient manifestement séparés en deux tas à l'intérieur du bâtiment. Mais plus que ça, les découvertes d'épilés, qui sont la base des épis de blé, nous a quelque peu renseigné sur la manière de récolter des Gaulois, avec notamment les liserons qui s'enroulent autour des grains, mais l'absence d'autres plantes sauvages qui indiquent que probablement seul l'épi avait été prélevé lors des récoltes. Donc, simplement, on va voir ici quelques images de ces sites tels qu'on peut les essayer de les restituer. Alors là, on est à la base de la hiérarchie sociale pour ces fermes. Il s'agit d'un simple enclos dans lequel il n'y a qu'une seule maison et des annexes avec un fossé peu large et peu profond et autour quelques enclos dévolus à l'agriculture. Alors évidemment, quand on va fouiller ces fossés, on va les fouiller mètre par mètre et on va prélever chacun des mobiliers qui sont contenus dans ces fossés. Et c'est l'analyse précise de ces mobiliers qui va nous permettre d'analyser également le niveau social des occupants. Alors dans un cas comme celui-ci, la faune qui est consommée, les restes d'animaux qu'on va trouver, sont généralement des os d'animaux vieux, réformés, qui sont en bout de course et qui vont finir dans l'assiette. Et on aura quelques petits outils des fusaioles, qui sont des petits volants d'inertie qui servent à faire des fils de laine, et des pesons qui servent à tendre les fils sur les métiers à tisser. Mais on n'aura aucun bien de prestige. Sur ce site qui vous est présenté dans l'exposition et que vous reconnaissez certainement, j'ai pu mettre en évidence qu'il y a plusieurs maisons, comme vous le constatez, à l'intérieur de l'enclos. Donc les maisons, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci, avec les petites annexes qu'on a vues précédemment. J'ai pu mettre en évidence que la maison qui est située au centre de l'enclos était certainement celle du bénéficiaire des lieux. Alors, pour argumenter cette hypothèse, j'ai étudié chacun des amas détritus qui se trouvent à proximité de ces maisons. Et j'ai pu constater que celle qui était disposée au centre disposait d'un vaisselier de nettement meilleure qualité que celle des autres, avec une vaisselle tournée de qualité et beaucoup plus décorée que celle de ses voisins. En plus de ceci, la faune consommée dans cette maison ne concerne que des morceaux d'animaux jeunes, et principalement de porcs et de porcs jeunes, qui est un des critères hiérarchiques de consommation de la viande pour la période gauloise. Donc d'une diète de très très bonne qualité. Mais également s'ajoutent à cela des éléments de parure cassés qui ont été rejetés et des importations. Donc on est là déjà dans quelqu'un qui a un peu plus de moyens que ses voisins. Ce qui est marrant et qu'on peut dire comme anecdote pour ce site, c'est que chacune des maisons possédait sa propre clé. Alors c'est assez étonnant parce qu'on a un espace collectif dans lequel seront rassemblés des habitants, mais chacun peut soustraire sa propre maison au regard des autres par une fermeture à l'aide d'une clé et d'un verrou. Donc pour résumer cette différence hiérarchique au sein des établissements agricoles, donc je les ai classés en 4 rangs différents, donc du rang 4 que sont les exploitations les plus modestes. Alors généralement, là, il n'y a même pas de fossé, c'est simplement une maison avec une structure à côté. Et pour l'instant, la difficulté est de savoir si ces structures, ces petits sites, représentent réellement un site ou si c'est simplement des structures qui sont utilisées lors de grands travaux saisonniers, comme les moissons par exemple, donc en fait des satellites de fermes plus importantes. Et donc plus on va monter dans les rangs et plus on aura ce fossé marqué, jusqu'au rang 1, qui est celui-ci, où en fait la demeure du bénéficiaire des lieux sera très nettement séparée du reste du commun de l'exploitation agricole par un fossé très bien construit et très bien aménagé. Alors simplement pour ce site qui est illustré en dessous, et qui a été fouillé dans la moyenne vallée de l'Oise. Donc on a effectivement, c'est la représentation du rang 1 que vous avez au-dessus. Donc on a une demeure située au centre d'un enclos, dans lequel on accédait par un passage très étroit, et on a trouvé une très très grosse clé dans le fossé, dans le comblement supérieur du fossé à ce niveau. Et autour se distribuent les communs nécessaires au fonctionnement de l'exploitation. Alors, là où nos Gaulois vont être considérablement aménageurs du paysage, c'est donc dans l'installation de ces fermes qui vont pulluler à cette époque. Alors, bien évidemment, les lieux de vie que je viens de vous présenter, ce n'est pas les seuls travaux qu'il va y avoir pour établir une ferme. Il faut aussi déforester pour établir les productions que vont être les champs et les pâtures. Alors, ces deux activités que pratiquaient abondamment les Gaulois, avec et qui occupaient une bonne partie de leur temps, avec d'une part, je vous ai mis ici quelques outils agricoles, donc ce sont des socs d'arrière. Alors, à cette période, en fait, l'appropriation de nouvelles terres va être permise justement par le développement de l'outillage en fer, avec aussi le développement des mines et de la métallurgie. Donc on va avoir des outils qui vont être de plus en plus adaptés morphologiquement à la nature des sols et qui vont permettre aux populations de conquérir des terrains qu'ils n'avaient jusqu'alors pas exploités. En fait, au 5e siècle, 5e, 4e siècle avant, les fermes se trouvent plutôt en fond de vallée. Et plus on va avancer dans la chronologie, et plus elles vont s'installer sur toutes les composantes du paysage, jusque dans des endroits qu'on jugerait actuellement peu rentables, comme les cordons littoraux qui seront mis également en exploitation. Donc vous avez au premier plan une hache hein, qui n'est pas sans rappeler celle qui était encore en usage au XIXe siècle. En fait, la panoplie des outils agricoles mis en place à l'époque gauloise va quasiment perdurer jusque la révolution industrielle. Donc c'est tout à fait les outils qu'utilisaient nos grands-parents. Donc, au niveau des cultures, là encore, nos connaissances ont considérablement progressé. Le développement de l'archéocarpologie, qui est l'étude des graines, nous a permis de mieux comprendre, d'une part, la manière dont les Gaulois cultivaient, mais aussi les espèces qu'ils cultivaient. Alors là, c'est des informations tout à fait récentes que je vais vous livrer. Et on a fait de très grosses bases de données qui rassemble des études de faune de différents territoires français. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les productions agricoles n'étaient pas les mêmes selon les régions, selon les différentes régions. Par exemple, à l'ouest, donc en Bretagne, les sites vont d'abord davantage être concentrés sur la production des légumineuses. Donc les légumineuses, ce sont les pois, la févrole, la lentille, et qui vont être cultivées sur de petites surfaces et de manière intensive à la manière de jardin. Dans le nord de la France et les grandes plaines de l'Est, ce sont davantage des céréales, telles que c'est encore pratiqué aujourd'hui, qui vont être mises en culture. Ceci nous indique que les Gaulois avaient déjà une parfaite connaissance des aptitudes culturelles des sols et des récoltes qu'ils pouvaient en escompter. Donc, au niveau des travaux des champs, évidemment, ce sont des travaux qui vont monopoliser une grande partie de l'année, avec ici simplement une scène de moisson à la faucille. Mais il existait différentes manières de récolter. Et on peut supposer même, dans certains cas, que c'est simplement les épis de blé qui étaient prélevés à la main au fur et à mesure de leur mûrissement, en fait, en quelque sorte, dans des récoltes successives. Une bonne partie des travaux de traitement des céréales a lieu directement en plein champ. Et là, c'est les chaînes opératoires de ces traitements des céréales qui nous renseignent. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'on n'a pas toutes les parties, toutes les composantes des plantes. Et ça veut donc dire qu'une bonne part d'entre elles sont restées sur les lieux mêmes de production. Alors, c'est un avantage certain, c'est que le temps de transport est encore assez long à cette période et que pour convoyer tout à la ferme, ça nécessitait certainement trop de temps et qu'ils préfèrent en réaliser une partie directement en plein champ. Alors, pour faire la transition entre les cultures et l'élevage, je vous ai mis cet outil qui est une faux. Qu'on pourrait penser être dévolu plutôt à la coupe des céréales. En fait, à cette période, elle est essentiellement utilisée pour la coupe des prairies de manière à constituer des stocks de fourrage. Donc c'est un instrument qui a été inventé également à cette période. On les trouve dès le 3e siècle en France et qui nécessite un spécialiste pour le fabriquer parce que ça paraît très simple, mais c'est extrêmement difficile de fabriquer une faux. Donc ces faux vont permettre de constituer des stocks de fourrage importants pour le bétail, pour sa stabilisation lors de l'hiver. Alors les animaux que les Gaulois élèvent sont ceux que nous connaissons tous actuellement, avec par ordre de priorité le porc, le mouton, le bœuf, la chèvre et le chevaux, et aussi, mais il n'est pas vraiment élevé, mais en tout cas il est consommé, le chien qui est consommé de manière assez anecdotique sur certains sites. Donc là, je vous ai mis ces beaux petits moutons souhaits, qui est une race qui existe encore de nos jours et qui se rapproche le plus des moutons gaulois, et également une vache de Jersey. Donc en fait, un schéma un petit peu qui peut paraître au prime abord un petit peu compliqué, mais qu'on va décrypter ensemble. Donc tout ce fonctionnement à l'intérieur de la ferme, nous l'avons vu, les bâtiments, les lieux de stockage. Donc le convoyage à l'intérieur de la ferme des produits qui sont élevés ou produits dans le milieu naturel. Mais c'est surtout sur les surfaces que pouvait occuper une ferme que je voudrais intervenir ici. Alors en fait, sous nos latitudes, il a été calculé que pour une personne, il faut par an et par habitant entre 0,2 et 1 hectare de forêt pour assurer à la fois les constructions, l'outillage, les réfections de bâtiments, mais également le chauffage et la cuisson des aliments. À cela, il faut ajouter les animaux nécessaires à la base d'un élevage. Et ces animaux nécessaires, c'est rapidement un couple et des bébés. Donc un mouton et deux ou trois petits moutons. Quand on calcule les besoins en herbe de chacun de ces animaux, on s'est rendu compte qu'il fallait au minimum 20 hectares pour avoir la base, mais vraiment la stricte base d'un élevage. À cela, il faut encore rajouter les productions agricoles qui, elles aussi, vont avoisiner une vingtaine d'hectares. Donc au total, on est autour de 50 hectares pour une exploitation agricole et c'est vraiment le minimum pour vivre en autarcie. Or, on sait que dès cette époque, il y a des excédents assez faramineux qui entraînent un commerce important avec les pays voisins. Dans d'autres régions, comme ici en Normandie, on va avoir des fermes qui vont prendre l'allure en quelque sorte de petits hameaux. Donc on a une succession d'enclos dans lesquels sont installés des bâtiments qui ont été tous construits en même temps. Donc là, on a une transition avec la ferme proprement dit et la création d'un petit hameau. On a aussi des cas un peu plus rares à analyser parce qu'il faut qu'ils perdurent très très longtemps. Et là, à nouveau, on est en Bretagne, de sites qui vont perdurer sur 5 siècles et qui vont s'agrandir au fur et à mesure. Donc, comme on a dans cette succession de diapositives, jusqu'à créer une sorte également de petits hameaux. Alors ça peut être simplement d'ordre démographique, c'est-à-dire un couple de pionniers qui s'installe, puis la naissance des enfants, un agrandissement, une nouvelle maison, etc., jusqu'à obtenir cette forme tout petit village. Alors en fait, ces établissements sont tellement nombreux en France qu'on a décidé très récemment avec mon institut de faire le recensement de tous ceux qui ont été fouillés. Et on arrive à obtenir une base de données de près de 750 sites fouillés, ce qui nous permet de proposer justement toute cette hiérarchie sociale, mais également de voir la densité du tissu rural mis en place à cette période. Alors s'il n'y a rien dans la partie sud, c'est parce que simplement l'inventaire n'est pas encore conduit dans cette région, et donc cette partie sera amenée à s'étoffer considérablement. Alors en fait, les établissements gaulois sont si nombreux qu'on peut suivre les tracés. Vous avez ici le tracé du TGV Nord, rien que par les découvertes qui sont faites sur ces tracés quand on intervient en archéologie. En fait, il y a un site, une ferme gauloise, entre 500 mètres à 1 km en moyenne. Donc une densité absolument colossale sur l'ensemble du territoire. Récemment encore, et c'est cette base de données qui nous permet aussi d'argumenter ces nouvelles hypothèses, et on est là dans de l'actualité de la recherche, c'est une piste que nous conduisons actuellement, on s'est rendu compte que sur ces sites, il n'y avait pas que des productions agricoles ou d'élevage ou de culture, mais que sur certains d'entre eux est pratiquée la sonnerie. Alors la sonnerie, c'est la fabrication du sel, et vous avez ici un énorme four à sel, donc qui se présente sous cette large forme ovalaire inscrite dans le sol. Donc c'est une fosse qui est creusée dans le sol, sur laquelle on va déposer une grille. Et sur cette grille, on va déposer des petits récipients qui ressemblent un petit peu à des pots de fleurs actuels, dans lesquels on va mettre de l'eau saturée en saumure. Et on va mettre des braises et le feu en dessous de cette grille. Et par évaporation, on va obtenir des pains de sel qui seront parfaitement commercialisables et échangeables. Alors ces pains de sel sont tous calibrés et donc font tous le même poids. Et au fur et à mesure des études, donc, on s'est rendu compte que sur certains de ces sites enclos, il y avait cette spécialisation sur le sel. Ce qui permet de diversifier les activités, mais aussi d'avoir des relais pour cette matière première. Il est bien évident que cette matière première est abondamment utilisée à cette période parce que c'est la seule façon de conserver les aliments. Sur d'autres sites, alors simplement pour vous illustrer la chaîne opératoire de cette fabrication, on a soit le transport de saumure dans des grands vases qui vont arriver directement sur le site et qui viennent du milieu maritime, mais on peut aussi avoir l'exploitation du milieu naturel par des plantes halophiles qui concentrent dans leur squelette des cristaux de sel et quand on les brûle, on récupère ces cristaux de manière à en faire du sel. À l'intérieur, donc, ces matériaux arrivent à l'intérieur du site et Et donc, il y a toute la chaîne opératoire qu'on a vue précédemment, de ces petits objets à sel qui vont être mis sur cette grille. Et après, ces pains vont être démoulés. Donc, on ne va plus avoir le récipient pour identifier les sites consommateurs de ce sel. Alors, simplement pour vous dire à quel point c'est une enquête minutieuse, les seules traces qu'on va avoir sur le site, ce sont les petits bords de ces récipients qui vont être pris dans la gangue de sel et qui n'auront pas pu être enlevés, qu'on va retrouver. Donc, il faut analyser la céramique très, très finement pour pouvoir les découvrir. Ou des empreintes indirectes à l'intérieur des vases qui ont contenu de la saumure. Et la saumure, en fait, attaque les parois du vase et crée des espèces de cupules facilement repérables. Mais bon, c'est une enquête assez minutieuse pour pouvoir voir les sites distinguer les sites consommateurs des sites producteurs. Pour le faire, ça va être un petit peu la même chose. Sur là où les mines vont exister, il y aura de nombreux déchets qui vont nous signaler cette activité. Mais pour trouver une spécialisation ou du travail de forge à l'intérieur de ces sites enclos qui parsèment la campagne, c'est beaucoup plus difficile. Parce que généralement, ce qui va voyager, c'est simplement la masse de fer plus ou moins purée, que l'on appelle un massio, et qui va arriver sur les sites pour être transformé en outils. Et ces outils vont après voyager sur les autres établissements. Donc on a en fait un réseau comme ça qui tisse toute la campagne de différentes natures de sites dont les productions vont très largement voyager. Alors les productions, elles voyagent aisément à cette période parce que les réseaux routiers sont déjà très très développés et qu'on utilise aussi, bien évidemment, les réseaux fluviaux pour la circulation des marchandises. Alors justement, pour revenir un petit peu sur les mines, vous avez ici une représentation que j'ai empruntée à Béatrice Coué qui travaille sur le Limousin, sur les mines d'or. Et en fait, pour exploiter les filons d'or, les Gaulois vont ouvrir le sol. Donc c'est des mines à ciel ouvert et générer de nombreux déchets qui sont figurés ici sur cette maquette. Alors dans certains secteurs, ces activités artisanales qu'on peut qualifier de proto-industrielles ont dégagé énormément de pollution qui sont encore analysables dans les sols. Donc on est là dans les premières industries polluantes à haut niveau que l'on mesure déjà dès cette période. Mais également aussi des modifications du paysage. Vous avez eu, je crois, une intervention de Laurent Olivier la semaine dernière. Ce collègue travaille dans la vallée de la Seine, Seille, en Lorraine. Et il a pu mettre en évidence qu'en fait, l'exploitation des sources salées de ce secteur ont engendré une telle quantité de déchets qui ont été déversés dans un cours d'eau qu'elles en ont élevé le niveau et ont transformé le paysage en marécage, qui est toujours le cas actuellement. Donc des industries déjà très, très marquantes et qui ont contribué à modeler le paysage que l'on connaît aujourd'hui. Alors, au-dessus de ces petits sites, de ces petites fermes qui se transforment pour certaines d'elles en hameaux, on a des sites beaucoup plus importants, comme le site de Paule dans les Côtes d'Armor, qui a été fouillé par Yves Ménez et qui perdure là sur une très très longue durée. Et c'est un site qu'on peut qualifier de château, voire de forteresse, ce qui peut paraître un anachronisme pour la période dont nous parlons, mais qui est pourtant une réalité. On a au départ, au 5e siècle avant, un enclos déjà assez colossal, dans lequel au fond duquel est installée une grande maison et au devant duquel est installé le petit cimetière familial. Au fur et à mesure de son existence, ce site va se transformer en véritable place forte avec d'importants talus et fossés étalus pour y pénétrer et plusieurs portes avant de pénétrer au cœur de l'établissement. Au fond de celui-ci, la maison qui a été fouillée fait plus de 400 mètres carrés, ce qui est absolument colossal pour l'époque. Et pour la petite anecdote, elle est dotée de souterrains à son arrière, ce qui permet aux habitants de fuir en tout incognito en cas d'attaque ou d'invasion. Alors simplement, et là c'est un plan de bâtiment que vous avez également dans l'exposition, il s'agit là d'un grenier associé à ce site et on voit des structures absolument colossales avec les fouilleurs qui vous donnent l'échelle, des poteaux qui ont été plantés dans ces fosses de manière à établir le bâtiment qui est l'ossature du bâtiment dessus. Au-dessus, mais en autre forme d'habitat, on a aussi ce site d'Assiromance qui a été fouillé dans les Ardennes, exploré sur 17 hectares. Et vous pouvez constater que ces 17 hectares sont entièrement construits. toutes les taches de couleurs que vous avez représentent des structures qui ont été mises en place par les Gaulois. Alors sur ce site, le fouilleur Bernard Lambeau a pu observer qu'il y avait trois grandes places qui sont bordées de bâtiments que vous avez ici. Et l'étude minutieuse des vestiges, donc des rejets qui sont associés à ces constructions, a montré que ces quartiers étaient dévolus à des personnes différentes. Dans ce quartier-ci, celui qui est le plus près de la rivière et au plus près des prairies, ce sont les éleveurs qui résidaient. Ici, les déchets retrouvés dans les fosses à proximité indiquent que c'était les artisans, tandis que dans celui-ci, c'était les agriculteurs spécialisés dans les céréales. Mais le côté le plus extraordinaire de ce site est la présence. Alors là, c'est simplement une image pour vous illustrer un peu cette agglomération, ce village déjà un petit peu densifié. Mais l'intérêt majeur de ce site est la présence sur le point le plus haut de ce plateau calcaire, on est en Champagne, de 5 temples qui ont été édifiés au sommet. Alors ces temples présentent une particularité, c'est que lorsque le visiteur débouchait par le chemin qui les bordait, ils lui apparaissaient tous de la même hauteur. Or, les plans au sol montrent que le premier temple est de taille inférieure au dernier, mais c'est en fait une vue en trompe-l'œil, en quelque sorte, qui permet de les visionner tous de la même façon. Alors c'est un effet d'anamorphose qui a nécessité au préalable le tracé de l'ensemble des bâtiments et une parfaite maîtrise des perspectives de manière à obtenir cette vision d'ensemble. Alors plus grand encore, et là le façonnage des paysages est absolument remarquable par les Gaulois, ça va être les créations des villes qui interviennent à la fin du second siècle, aux alentours de 180-150 avant notre ère. Vous avez ici une photographie aérienne du site de Moulay en Mayenne, qui a été fouillée récemment par un collègue qui s'appelle Elven de Goff. Et pendant très longtemps, en fait, on a pensé que la ville gauloise se limitait à cet éperon que l'on voit au bout, à une vingtaine d'hectares. Et c'est simplement par la photographie aérienne, mais également par le LIDAR, qui est cette technique-ci, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un autre rempart, bien en amont du précédent, et qu'en fait, cette ville gauloise couvrait une surface de plus de 100 hectares. Donc, ça la place parmi les villes importantes de Gaule. Le LIDAR, en fait, c'est, pour vous expliquer simplement la technique, c'est 30 ans, 40 ans après la photographie aérienne, et on dispose de scanners. En fait, c'est une sorte de scanner, c'est un laser autoporté, par des avions, et qui vont en quelque sorte scanner le sol au centimètre près, et qui vont révéler toutes les légères dépressions et faire apparaître les anciennes constructions. Alors ça marche aussi bien en forêt que sous n'importe quel couvert végétal. Et donc ces lidars nous donnent accès aussi aux voies qui permettaient d'accéder au site, mais également, dans certains cas, aux fermes qui parsemaient la campagne aux alentours de cette ville. Alors les villes gauloises sont connues, mais méritent encore de plus amples travaux de fouilles pour mieux les comprendre, parce que vous imaginez bien que fouiller 100 hectares d'un seul tenant, c'est extrêmement compliqué, surtout que généralement, ce sont des sites qui sont stratifiés, donc il y a plusieurs niveaux de fouilles à réaliser pour pouvoir en comprendre l'évolution. Et jusqu'à présent, on avait des fouilles qui avoisinaient 7 à 8% de la surface interne d'une ville. Grâce à cette fouille de Moulay, alors c'est simplement parce qu'il y a une autoroute qui va passer par la porte principale de la ville et qui va ressortir par la seconde qu'on a pu avoir accès à un grand transept à l'intérieur de cette ville et disposer cette fois de 10% d'une ville fouillée. Là encore, les Gaulois font preuve de grandes capacités d'aménagement, comme sur ce site de Bibracte. Car ces villes vont être entourées de remparts qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut et de large et qui vont être constituées par ce qu'on appelle les murus gallicus, dont vous avez une partie reconstituée dans l'expo. Et donc ces remparts vont se développer sur des kilomètres de long en s'affranchissant du relief. Et il faut donc des règles assez précises pour les mettre en œuvre. Et là où, où il va y avoir un impact très très fort sur l'environnement, en fait une pression encore accrue sur l'environnement, c'est que rien que pour constituer ces remparts, c'est extrêmement consommateur de bois. Et une étude menée par Stéphane Fichtel a montré qu'il fallait déforester environ 60 à 70 hectares de forêt, ne serait-ce que pour construire le rempart d'une ville. Donc on a une pression extrêmement forte sur le couvert végétal environnant. Alors ces remparts vont être parés de pierres. On a un exemple de restitution ici. Et bien évidemment, l'accès à ces villes va être encore plus contrôlé que dans les sites que nous avons vus précédemment, avec la création de véritables portes-porches, telles qu'on peut les connaître pour la période du Moyen-Âge, qui permet à la fois un contrôle très pratique des entrées et des sorties. À l'intérieur de la ville, les quartiers ne vont pas être non plus distribués au hasard. Il va y avoir des constructions de chemins et de routes qui vont permettre de délimiter des îlots. Et dans ces îlots, on va développer différentes fonctions. Alors, on a des îlots qui vont être plutôt dévolus au commerce, avec des vraies rues commerçantes. C'est la ville, c'est le lieu aussi où converge ce qui est produit dans les campagnes et où vont s'échanger les biens. C'est une époque d'un intense foisonnement économique avec des échanges avec l'Italie et des pays plus lointains, notamment pour le commerce du vin dont les Gaulois raffolent. Et donc, on va avoir des quartiers qui vont être dévolus spécialement à ces boutiques et à cet artisanat, mais aussi des quartiers qui vont être un peu plus éloignés, dévolus aux artisans qui manipulent le feu. Je pense aux forgerons, entre autres, parce qu'il faut mieux éloigner cette activité des constructions et des maisons sous peine d'avoir des incendies absolument monstrueux à l'intérieur de ces villes. Mais là aussi, les villes vont être divisées en quartier résidentiel selon les rangs hiérarchiques, avec des résidents riches et des résidents pauvres qui vont se matérialiser par des constructions de plus ou moins belle amplitude, avec des surfaces au sol plus ou moins grandes. Alors, il ne faut pas imaginer que l'intérieur de ces villes, ces 100 hectares, il y en a bien évidemment des plus petites, ça s'échelonne de 7-8 hectares à plus de 200 hectares, sont entièrement construits. Il reste à l'intérieur des parcelles pour faire des jardins et de l'élevage. Alors, on a aussi sur le site de Coran, donc là, je renvoie à la petite pierre gravée que je vous ai présentée au départ, où on a en fait ces deux bâtiments qui était sommairement esquissé. Ici, il s'agit d'un temple, donc on a aussi des surfaces qui sont dévolues aux manifestations cultuelles qui ont lieu à l'intérieur des villes, avec au devant une très large esplanade vouée aux manifestations lors des grandes manifestations religieuses ou qui peuvent également servir lors de marchés. Avec une autre vue ici où on voit que l'enclos sacré est nettement séparé du profane par de puissants murs qui le délimitent. Alors un schéma très rapide sur lequel je vais passer très rapidement qui résume un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc une société qui connaît bien des formes d'habitat bien différentes, avec les unités agricoles dont on a vu qu'elles avaient plusieurs rangs différents. Des agglomérations fortifiées ou non, comme celle d'Assyromans, ce que nous avons vu avec ces temples, qui peuvent être également incluses dans des enclos ou défendues par de puissants fossés. Et les derniers éléments, ces villes que nous venons de voir. Alors ça, c'est les types d'habitats que l'on connaît le plus, mais bien sûr, ça se grade. Il y a une véritable graduation entre hameaux, villes, villages, bourgades, etc. Donc, pour controverser un peu l'image que nous avons eue au départ de Gaulois vivant au fond de ces forêts, nous avons réalisé cette image à destination des scolaires très récemment pour un texte et document pour la classe. Donc, on a ici au premier plan une ville avec le sanctuaire que nous avons vu précédemment, qui domine un paysage dans lequel s'éparpillent des fermes de différentes natures, plus ou moins vastes, avec un établissement de très très grande envergure disposé sur un plateau, mais également des sanctuaires qui émaillent la campagne, comme celui-ci qui est placé à ce niveau. Alors, Bien évidemment, ces sites sont reliés les uns aux autres par des chemins qui et le cours d'eau qui est placé au centre permet également le transport des marchandises. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que nous sommes bien, bel et bien l'héritiers d'un paysage qui avait très largement été modelé par ces Gaulois. Je vous remercie de votre attention.
Je voulais vous demander, en ce qui concerne les fossés défensifs, enfin je suppose qu'ils sont défensifs, est-ce qu'ils sont plutôt défensifs contre les animaux sauvages ou vraiment contre une armée? Parce que je les vois mal protégés, surtout en ce qui concerne les portes d'entrée. Est-ce qu'elles sont en bois ou est-ce qu'elles sont recouvertes de métal? Parce que sinon, comment se protéger du feu? Là, je me pose quelques questions de côté militaire.
Alors, je vais vous répondre. Alors, effectivement, pour toute la première strate d'habitat qu'on a vue pour les fermes, il ne s'agit nullement de fossés défensifs. Il s'agit vraiment d'un marquage de la propriété, mais j'ai un peu de mal à utiliser ce terme parce qu'il est peut-être un peu déplacé pour la période dont nous parlons. Mais c'est avant tout un signe ostentatoire qui marque une appartenance d'un sol. Et alors les fossés qui sont créés, ils peuvent protéger des animaux sauvages, entre autres, mais éviter aussi que les animaux qui sont élevés à l'intérieur de l'enclos s'échappent. Mais également et surtout, le creusement d'un fossé plus d'un talus permet quand même de dissimuler l'habitat ou de le cacher quelque peu, mais également de protéger du vent, comme je vous l'ai dit dans la communication. Pour les villes, là, il s'agit manifestement plus de choses qui peuvent être plus facilement contrôlables. C'est difficile de restituer les élévations d'un site, mais il est fort probable que sur ces remparts, il y ait des chemins de ronde à la manière de ceux qui existaient à la période du Moyen-Âge. Donc, des remparts là, qui peuvent faire plusieurs mètres de haut, qui sont eux-mêmes précédés de fossés. Et là, c'est quand même des aménagements suffisamment colossaux pour freiner les armées.
Et en quoi le fait de creuser très profondément pouvait rehausser le niveau social du propriétaire? Comment on traduirait ça aujourd'hui?
C'est la capacité à mobiliser une main-d'œuvre abondante pour pouvoir construire sa demeure. Il faut avoir les capacités et les moyens de réunir suffisamment de personnes pour pouvoir élaborer ces ouvrages. Ça prend, je me suis amusé à des petits calculs selon la nature des sols, si on est dans du granit, du limon, de l'argile, etc. pour construire ces fossés. Ça engendre quand même beaucoup d'heures de travail et beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir les élaborer. Et sur certains sites, j'ai même pu mettre en évidence qu'en fait, c'est des équipes de travail qui construisent chacun un tronçon de fossé. Parce que des fois, ils ne se retrouvent pas tout à fait au même emplacement. Donc là, c'est un petit peu un défaut de constructeur au départ.
Et en ce qui concerne les portes, est-ce que vous pensez... On a retrouvé quelque chose de métallique qui pourrait...
Alors, les portes,
penser qu'elles étaient recouvertes
Non. On a les clés, qui est un système tout simple, hein, c'est des clés à une dent, généralement, et on a les plaques des serrures, mais c'est tout. Et après, on a quelques pentures, mais on n'a pas de... en tout cas, il n'y a pas de porte blindée telle qu'on pourrait les voir comme celle utilisée actuellement.
Et j'ai encore une deuxième question. Vous avez parlé des talus, donc, qui correspondent aux terres qu'on a enlevées dans les fossés et pour un petit peu protéger de la vue les fermes.
Oui.
Ces talus, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que si on n'avait pas les photos aériennes, on n'aurait pas vu les traces des enclos et des fossés. Mais normalement, cette quantité de terre aurait dû se retrouver dans les champs.
Alors cette quantité de terre, en fait, c'est l'érosion, les destructions. Alors, le site que je vous ai montré, où on a pu mettre en évidence le fait que le sol avait été débarrassé de son couvert végétal pour y entreposer les terres issues du creusement du fossé, ce site était pour moitié mis en culture actuellement et pour l'autre moitié sous couvert forestier. Et c'est uniquement sous le couvert forestier qu'on avait encore le talus et la dépression du fossé, tandis que le reste était complètement rasé et se présentait sur une surface plane. Donc en fait, il faut des très bonnes conditions de fossilisation pour que les talus se conservent.
Sinon, le talus se déverse dans le fossé.
Alors en grande partie, on a souvent, effectivement, on relève dans les coupes de ces fossés des effondrements de parois des talus, effectivement.
D'accord. En ce qui concerne les silos, vous dites que le gaz carbonique dégagé par les premières graines, celles qui sont en contact avec la terre, durcissent le...
Alors non, je me suis mal exprimé. C'est l'ensemble des graines qui sont déposées dans le silo qui vont dégager du gaz carbonique, et celles qui sont en contact avec la paroi autour de la structure vont germer et comment dire, créer une espèce de gangue qui va protéger les autres à l'intérieur de... En fait, le silo, après, va être saturé en gaz carbonique et ça ne bouge plus.
Et qu'est-ce qui empêche les animaux rongeurs d'y pénétrer ?
Rien. Mais on n'observe pas d'animaux rongeurs à l'intérieur des silos. En tout cas, c'est une structure qui a été utilisée bien avant l'époque gauloise et qui perdure même encore. Il y a peu de temps où il n'y en a plus dans les campagnes. Les silos en pleine terre étaient encore utilisés fréquemment dans toutes les encyclopédies agricoles du 19e et même 20e siècle. On trouve des silos en pleine terre pour les végétaux, par exemple.
Et
les carottes,
l'eau de pluie ne pénètre pas
par
percolation latérale ?
A priori, non. Ça se conserve parfaitement bien.
Merci.
Il y en a encore en Algérie, effectivement.
Les Gaulois, d'après ce qu'on m'a dit, étaient connus comme étant de bons tonneliers. Ils faisaient des tonneaux. Bon. Maintenant, s'ils faisaient des tonneaux, vous n'avez pas mentionné, je serais curieux de savoir, depuis quand, puisque la France est un pays de vin, depuis quand y a-t-il des vignobles ? Est-ce qu'ils connaissaient, ces gens-là connaissaient-ils les vignobles ? Et puisqu'on est dans la nourriture, est-ce qu'aussi ils connaissaient les produits laitiers au-delà du lait, c'est-à-dire beurre, fromage, etc.
Transformé. Oui, tout à fait.
Ils connaissaient tout ça.
Alors, je vais essayer de reprendre de vos questions dans l'ordre. Pour le tonneau. Alors, le tonneau, on n'a pas de preuve directe pour la période gauloise de son usage. Je ne sais pas si Mathieu Pou vous en avait parlé, mais c'est plutôt une invention qui arriverait au début de la période romaine. L'usage, alors les grains de vigne, dans les analyses carpologiques, les analyses de graines, on retrouve de la vigne. Et ce n'est que depuis récemment qu'on arrive à faire la distinction réelle entre la vigne sauvage et la vigne domestiquée. Mais en tout cas, il n'y a pas de développement du vignoble important en Gaule avant la fin de la période gauloise et tout début de la période gallo-romaine. En fait, ils sont extrêmement consommateurs de vin, mais ils vont le chercher chez les voisins. Pour le fromage, on a des récipients que l'on appelle des faisselles qui permettent d'égoutter le petit lait, en fait, qui sont percés au fond et dont on suppose qu'ils sont faits pour contenir des produits laitiers qui doivent se transformer en fromage. Et là aussi, les nouvelles techniques, les nouvelles sciences qui se développent, on peut maintenant analyser les corps gras que les céramiques ont contenus et donc définir les produits qui ont pu être fabriqués. Donc ça, c'est des travaux qui commencent à se développer de plus en plus. À partir de ce qu'on appelle des caramels alimentaires. On a tous fait trop chauffer une casserole de lait qui déborde et qui va faire des traces très noires ou une poêle qui va s'incruster au fur et à mesure de son usage de petites choses un peu noires et compagnie. Et ces choses se conservent parfaitement dans le sol et on peut les analyser, et ce qui nous donne de nouveaux renseignements sur à la fois la préparation des repas, mais également sur ce qui était fabriqué.
Est-ce que ils avaient donc accès au sel. Oui. Est-ce qu'ils avaient aussi accès au sucre,
au miel?
J'aurais une question au sujet des engrais pour l'agriculture. Est-ce que pour l'agriculture, des personnes utilisaient des engrais et comment? Parce que je suis médiateur ici pour les sourds. Et dans ces fossés dont vous parliez, il y avait sans doute des détritus, des excréments. Et est-ce qu'on utilisait peut-être ces choses-là en tant qu'engrais pour nourrir les plantes, justement? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes à ce sujet?
Oui, tout à fait. C'est une excellente question. En fait, il y a plusieurs façons d'amender les champs. Il y a le paquage des animaux après les récoltes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait la moisson, par exemple, on va mettre les bêtes qui vont manger les résidus de cette récolte et qui, par la même occasion, vont enrichir le sol. Mais il est également question de dans les textes, et là c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence par l'archéologie, des amendements qui se font, notamment par cholage, de façon à préserver la fertilité des sols. Mais les fertilités des sols peuvent aussi s'obtenir par des assolements, c'est-à-dire en laissant reposer la terre sur plusieurs années, de façon à ce qu'elle retrouve ses qualités. Et bien évidemment, il y a l'utilisation des fumiers, quand les animaux sont mis en stabulation, pour pouvoir également nourrir ces sols.
Qu'est-ce qu'ils avaient comme machine agricole ?
Comme machine agricole.
Il y a les charrues, les arrières, charrues, moissonneuses.
Alors, il y a l'arrière, dont je vous ai montré quelques exemplaires. Alors, j'ai eu la chance d'en découvrir une en bois au tout début des fouilles que j'ai pratiquées. Et au fur et à mesure, donc, elles deviennent en métal et en fer. Ils ont la faux, les faucilles, les forces pour tondre les moutons, mais aussi pour probablement comme usage de ciseaux en quelque sorte. Ils ont marteau, enclume, enfin tous les outils qui étaient dans les fermes avant la révolution industrielle. Alors, au niveau des machines, je pense que vous faites référence au Valus qui est mentionné par Strabon, je crois, qui dit que les Gaulois sont pourvus d'une moissonneuse-batteuse qui est sur roue. Alors, elle est représentée, il y a 5 représentations, il y a sur les bas-reliefs de Reims, sur les portes. Alors, d'Arlon, je crois. Enfin, il y a plusieurs représentations de ce fameux Valus, mais on n'en a pas effectivement physiquement retrouvé la trace jusqu'à présent. Donc, ça se présente sous la forme d'une espèce de caisse en bois avec 2 roues dont l'extrémité ressemble au pic d'une moissonneuse-batteuse du 19e siècle, en fait.
Moissonneuse-batteuse ou moissonneuse seulement ?
Moissonneuse.
Moissonneuse.
Moissonneuse. Et encore, il fallait pousser les céréales à l'intérieur pour que les pics arrachent les épis de blé.
Donc moissonneuse, mais on ne sait pas comment elle a été faite.
Le battage, alors je vous ai montré une scène de battage au fléau, qui est une scène bien connue des campagnes anciennes, mais il y a aussi ce qu'on appelle le dépiquage avec les animaux, avec l'utilisation d'un tribulum. Alors un tribulum, ça se présente comme un traîneau, une planche de bois, dans lequel sont incisés des morceaux de silex, des éclats de silex extrêmement coupants. Et avec des animaux, on va passer cette planche sur les céréales de façon à détacher les céréales de leur grain, de leur épilé, de ce qui porte l'épi, et de pouvoir faire ainsi ce tri. Et après, l'utilisation de vannes pour enlever les balles qui enrobent les céréales.
Et est-ce qu'ils avaient des moulins avec des meules ?
Alors, ils ont des moulins. Et c'est l'une aussi des grandes innovations des Gaulois. Ils ont des moulins rotatifs, des meules rotatives. En fait, jusqu'à la période, avant la période gauloise, c'est ce qu'on appelle des meules à va-et-vient. C'est-à-dire qu'on va mettre des céréales sur une pierre et avec une meulette, écraser les céréales de manière à obtenir la farine. Avec la période gauloise, va se développer des moulins rotatifs qui sont de plus ou moins grande taille. Plus on va avancer dans la chronologie, plus ils vont être gros et importants, ce qui va réduire l'activité de mouture par 10 et pouvoir confectionner une farine beaucoup plus abondante et beaucoup plus rapidement. Donc ces deux pierres qui sont disposées l'une sur l'autre et dont la selle supérieure est pourvue d'un trou dans lequel on va mettre les céréales et par un mouvement de va-et-vient, on va obtenir simplement de la farine.
Donc c'est les meules du Moyen-Âge et actuel, quoi.
Tout à fait.
Mais alors, actionnées par quoi ? Des chevaux ou
par l'humain.
Par humain. Les hommes, même pas des animaux.
Ce sont vraiment des meules domestiques. On n'a pas les grands moulins comme au Moyen-Âge. Où chacun amenait ses récoltes pour être transformé en farine.
Les moulins avant, ça n'existait pas.
Ça se développe plutôt à partir de la période gallo-romaine.
Ah oui, quand même. À quelle époque
dès le 1er, 2e siècle après.
Les deux moulins, moulin à eau, moulin à vent.
Moulin à eau, sûr. Le moulin à vent, je n'en suis pas certain.
D'accord.
À quoi reconnaît-on qu'un bâtiment est un temple ?
Alors, tout simplement par les rejets que l'on retrouve dans ces bâtiments, qui sont plutôt des rejets d'ordre cultuel. Souvent, ce sont des objets qui ont été volontairement fractionnés, cassés, que l'on retrouve parfois réassemblés dans les lieux de dépôt, mais aussi par une abondance de matériel qu'on ne retrouve pas sur les autres sites. Donc on a vraiment dans les sanctuaires, en fait, il y a ce qu'on appelle des banquets, des scènes de banquets, et donc avec des consommations extrêmement importantes. Et on va briser, par exemple, toutes les amphores et les rejeter en un seul temps. Ce qu'on ne retrouvera jamais sur des habitats, même s'ils perdurent longtemps, on trouvera des fragments d'amphores en plus ou moins grande quantité selon, encore une fois, la hiérarchie de l'habitant, mais jamais en aussi grande abondance que dans les sanctuaires. Et après, les structures sont quand même très, très, très différentes. Ça ne se présente pas du tout de la même manière qu'un habitat.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la structure sociale de la paysannerie, propriétaire, métayer, le servage, enfin des choses comme ça?
Alors on sait que par César qu'il y a différentes classes sociales. Il y a la classe des chevaliers, des équitesses, il y a des vatesses, des servants, etc. Alors c'est extrêmement difficile. Est-ce qu'on sait? En tout cas, ce qu'on peut supposer, c'est qu'on a... très souvent, les tombes ou les petites nécropoles qui sont associées à ces fermes. Et très, très souvent, ces petites nécropoles ne renferment que 5-10 tombes en relation avec le temps d'occupation du site. Ce qui fait qu'on n'a pas tous les morts. Bien évidemment, sinon, une ferme compte en moyenne 20 à 30 personnes au minimum pour pouvoir entretenir 50 à 60 hectares. Et donc, on devrait avoir une population ensevelie beaucoup plus importante. Donc, ça veut dire que les autres n'ont pas eu droit tout simplement à des tombes. Et donc, il y a certainement une main-d'œuvre servile à la base pour aider aux différents travaux. Après, la graduation, elle se fait effectivement en fonction de la beauté de l'établissement ou de ses caractères de richesse extérieure ou de la superficie enclose et de la monumentalité des fossés qui vont l'entourer. Et on a déjà ces 4 classes sociales. Après, c'est difficile de les diviser encore, quoi. Ça viendra. C'est l'avantage de travailler maintenant à d'autres échelles, de pouvoir construire des bases de données qui nous permettent vraiment de faire des traitements statistiques et donc de valider en quelque sorte les savoirs. C'est plus seulement une interprétation, c'est aussi les mathématiques et les coefficients de corrélation, par exemple, qui nous disent que nos hypothèses sont bonnes ou mauvaises. Donc on peut éliminer des hypothèses, en créer des nouveaux, et essayer de voir si elles fonctionnent ou pas. Et quand on a quasiment 1000 sites, je pense obtenir à peu près 1000 sites de répertoriés, on peut se permettre de faire des pourcentages et des statistiques.
Bon, s'il vous plaît, quelle était la structure des chemins, la largeur aussi? Est-ce que c'était en dalle? Est-ce qu'il y avait quelque chose sur les côtés pour les chemins et les routes?
Oui, alors je pense que vous pensez aux voies romaines qui, elles, sont bordées de fossés. Alors ça existe dans certains cas, effectivement. Le souci des chemins romains, alors on en a retrouvé quelques-uns, notamment quand le substrat le permet, c'est-à-dire par exemple un substrat calcaire va imprimer au fur et à mesure des passages des chariots et des convoyages la trace des roues dans le sol. Donc là, on a une idée des chemins avec des chariots ou des moyens de transport qui avoisinent 1,40 m, mais la largeur donc est un petit peu plus grande pour ces chemins. Mais l'inconvénient de ce réseau routier, c'est qu'il a été très très emprunté par les Romains qui donc l'ont masqué en très grande partie. Donc on a un petit peu de mal à le mettre bien en évidence. Alors sur certains sites comme celui d'IF que je vous ai montré très rapidement, on a ces réseaux de chemins qui relient les fermes les unes aux autres.
Au cours de votre conférence, vous avez souligné que ces gens-là aimaient bien le vin, qu'ils n'en fabriquaient pas. Ma question donc, quid des échanges? Et par extension, est-on dans une économie de subsistance seulement? Est-ce qu'il y a de la monnaie? Est-ce qu'on fait du troc? Et quoi pour contre quoi? Et quel est le commerce international, entre guillemets, pour l'époque? Merci d'essayer de me répondre.
Alors, c'est un exposé en soi. Alors simplement, je vais essayer de vous répondre relativement brièvement. On n'est plus dans des économies de subsistance. En fait, j'ai peu développé, mais par exemple, on sait qu'au 5e, 4e siècle, les fermes donc, sont plutôt cantonnées dans les fonds de vallée et elles ont plutôt des petites mosaïques qui se développent autour d'elles. Et on sait qu'ils pratiquaient la méture, c'est-à-dire qu'ils ensemençaient plusieurs espèces en même temps de manière à pouvoir avoir au moins une récolte. À partir du 3e siècle, ça sera avant Jésus-Christ, ça sera terminé. ils vont s'affranchir totalement de cette méthode et ne vont plus semer qu'une espèce par champ. Donc on est dans le cas de cultures monospécifiques et à risque. Et s'ils prennent des risques, ça veut dire que si jamais la récolte ne fonctionne pas, ils peuvent réacquérir des semences pour recommencer. Et là où l'on sait qu'il y a des dégagements de surplus, c'est qu'il y a un nombre considérable d'établissements agricoles qui sont mis en place à cette époque-là. Mais c'est également les textes qui nous disent que certaines marchandises fabriquées par les Gaulois sont très prisées par les Romains. Donc il s'agit entre autres des matelas qui sont confectionnés à partir de la laine des moutons, du feutre également, mais aussi des salaisons. Qui sont des salaisons gauloises qui sont extrêmement réputées à Rome. Alors, en échange de tout ça, bien évidemment, il y a le développement de la monnaie. La monnaie est introduite en Gaule avec les mercenaires gaulois qui ont officié à l'étranger, je pense notamment à la Grèce, et en ramenant, ils se faisaient payer en monnaie sonnante et trébuchante d'or, donc les monnaies d'Alexandre le Grand. Et donc, ils vont introduire dès le IVe siècle cette monnaie en Gaule, mais c'est seulement au IIe siècle, donc au moment où les villes vont commencer à se développer, que le système monétaire va se développer et chaque tribu ou chaque peuple gaulois qui occupe la Gaule va développer son propre système monétaire. Donc, on a des monnaies en or, en argent, en bronze, et jusqu'à un ersatz de monnaie que l'on appelle le potin, qui est un alliage, en fait, et qu'on trouve en abondance sur de nombreux sites. Et bien sûr, ce qu'ils font venir, c'est en grande partie du vin, qu'on nous dit qu'ils n'hésitent pas à échanger contre des esclaves éventuellement.
Vous nous avez dit, monsieur, que les villages avaient à peu près, les fermes avaient à peu près une trentaine de personnes, d'individus.
Oui.
Les villes pouvaient comprendre combien d'individus, à peu près ?
Plusieurs milliers, c'est une question extrêmement difficile. C'est pareil, la population de la Gaule, on peut dire 5-6 millions ou 18 millions d'habitants. Voilà, c'est les fourchettes qui sont données actuellement. Et vous comprendrez que c'est difficile parce que, je vous l'expliquais, on ne trouve pas tous les morts dans les nécropoles. Et donc, il est bien difficile de faire des calculs démographiques à partir de ce que l'on trouve. Mais du fait qu'on est, on les ait pas tous, on est obligé d'extrapoler, en fait, et d'essayer de faire des calculs. Moi, simplement, quand je dis 20 à 30 habitants sur une ferme, c'est que je pars j'ai fait des calculs assez élaboré et peut-être un peu trop alambiqué pour ma thèse, où j'essayais de voir combien de personnes étaient nécessaires pour travailler dans des champs quand on n'a pas de mécanisation. Et à partir de là, et également par rapport au nombre de maisons qu'on trouvait à l'intérieur de ces fermes, et également par les volumes des produits qui étaient stockés dans les structures de stockage que sont les silos et les greniers. Et le croisement de ces multiples informations m'amène à considérer qu'il y a entre 20 et 30 personnes par établissement rural, mais c'est peut-être beaucoup plus pour les plus gros. En tout cas, là, je parle des établissements basiques, mais pour les plus importants, c'est évidemment bien plus.
Comment faisait-on pour... Est-ce qu'il y avait des petits ports pour aller chercher l'étain de l'autre côté de la Manche ?
Oui.
Parce que vous avez très peu parlé du bronze, mais pour faire le bronze, il fallait
oui.
de l'étain.
Oui.
Et il y avait donc bien des grandes routes quand même.
Alors, on a de l'étain aussi chez nous, mais il y en a effectivement autrement.
Il y en avait aussi en
Oui,
Gaulle.
Oui. Mais il y a des échanges nombreux avec l'Angleterre, hein, de toutes les manières.
Quand
oui, il y a probablement des ports, mais... On aimerait beaucoup, beaucoup les fouiller. Simplement, on fouille les emplacements qui sont les plus menacés. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec l'archéologie préventive. Et après, il s'agit de fouilles programmées. Et pour l'instant, on n'a pas encore abordé ces stations maritimes qui pourraient nous livrer...
Parce qu'on ne construit pas, là, il n'y a pas de...
Ça peut arriver, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu d'intervention. Mais en tout cas, Marseille est un port à l'époque gauloise, bien évidemment, et même bien antérieurement. Dès le VIe siècle avant, Marseille est grecque et un port. Et toute la façade maritime du sud de la France est bordée de ports. Pour le nord de la France, c'est beaucoup... Et pour les échanges avec l'Angleterre, notamment, c'est pour l'instant pas encore bien mis en évidence, mais c'est une piste de recherche tout à fait intéressante.
Oui, vous nous avez montré plusieurs centaines de sites, là. ce sont tous des sites en rase campagne, donc qui ont été abandonnés, qui n'ont pas donné naissance à des villages plus importants par la suite. Alors, ça a été abandonné quand et est-ce qu'on sait pour quelles raisons? Alors, d'autre part, est-ce que les excédents dont vous parlez, les excédents alimentaires, auraient été une des raisons pour lesquelles qui aurait poussé César à envahir la Gaule aussi? Parce que nous apprenait en histoire, bon, t'auras raison, que c'était l'Afrique du Nord qui était le grenier de Rome. Alors, c'était peut-être pas vrai, hein, finalement.
Alors, ben, en tout cas, moi, c'est une des hypothèses, mais comme beaucoup de guerres, hein, les guerres sont souvent économiques et il est fort probable que les richesses engendrées par la Gaule aient attiré la convoitise de César. En tout cas, moi, je le pense fondamentalement. Alors, l'abandon des sites, justement, par la base de données que l'on a constituée, c'est un travail qu'on est en train de mener avec différents collègues. On essaye de voir les rythmes de création et d'abandon de ces sites. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de très grandes différences selon le secteur géographique où l'on se place. À l'ouest, les sites ont tendance à perdurer sur de la très longue durée, 5 siècles d'occupation quasiment continue. Tandis que dans le nord et l'est de la France, les sites vont avoir des durées de vie beaucoup plus courtes, de l'ordre de 100 à 150 années. Pas beaucoup plus. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Il y a Tacite qui nous dit qu'on n'incite pas les populations à rester parce que sinon elles se ramollissent et elles prennent trop d'embonpoint et c'est pas bon pour la santé globalement et qu'il faut bouger souvent pour être bien en forme. Mais aussi peut-être également des difficultés à amender justement par rapport à la question que l'on a eue tout à l'heure, à faire en sorte que la fertilité des sols perdure et comme on a encore assez d'espace, on peut reconstruire un habitat à côté. Alors, selon la séquence chronologique dans laquelle on se place, il y a des incidents qui émaillent cette courbe d'accroissement des occupations. Et l'un des phénomènes les plus marquants, ce sera justement la création des villes autour de 180 avant, et qui va mettre fin en fait à une expansion de la colonisation de la campagne. Et on va avoir de plus en plus d'établissements ruraux qui vont disparaître pour alimenter en fait en population les villes. Donc en quelque sorte un premier exode rural avant l'heure. Et la deuxième très grosse chute que l'on observe, c'est le phénomène de militaire de la guerre des Gaules, où là on a plus d'un tiers des établissements qui vont disparaître d'un coup, certainement dû aux outrages de la guerre.
Et il y a une question, on n'en a pas parlé, bon, on ne peut pas parler de tout, il y a tellement de choses, il faudrait faire d'autres conférences. Les Gaulois, je pense, étaient des pêcheurs.
Oui.
Comment ils procédaient au niveau de la pêche exactement? Est-ce qu'ils avaient déjà des connaissances d'aller en mer, je pense, avec des barques ou des bateaux à voile?
Alors, il y a de la pêche à la fois en mer et en rivière. Et là aussi, c'est le développement de recherches récentes. Parce que... Alors, on a par exemple des poids de filet que l'on retrouve sur certains sites, même à l'intérieur des terres, au bord de certaines rivières. Donc, on sait qu'ils avaient des filets de pêche et qu'ils pratiquaient la pêche. La difficulté, évidemment, ça va être de trouver les reliefs de cette pêche. Pour les os des animaux comme les porcs, les moutons, etc., c'est des os relativement durs qui se conservent relativement bien dans le temps. Les restes de poissons, vous les connaissez aussi bien que moi, ils sont extrêmement fragiles et surtout pleins de collagène et ont plus tendance à disparaître dans le sol. Et pour les trouver, il faut tamiser énormément de terre pour trouver quelques arêtes ou quelques vertèbres de poissons. Et là, il faudrait envisager des programmes spécifiques à cela pour pouvoir argumenter davantage sur les espèces pêchées et leur consommation. C'est un sujet qui est en voie de développement parce qu'il y a eu des recrutements au CNRS sur la pêche, mais pour des périodes encore plus anciennes, et notamment pour la consommation de coquillages au bord de la mer et voir le rôle des produits de la mer dans l'alimentation des populations anciennes.
La légende, je pense, l'origine... qui serait à l'origine du mot celte. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez.
Non, pas du tout.
Eh bien, écoutez, c'est une légende qu'Héraclès serait venu en Gaule. Et il y a toute une histoire qu'aurait épousé une femme qui vivait à l'époque en Gaule. Bon, le mot celte viendrait de la naissance... Attendez, je vais retrouver ça. ils disent Héraclès confia le royaume des Ibères aux plus nobles des habitants du pays. Et reprenant la tête de son armée, il passa dans la Celtique qu'il avait parcourue tout entière, en supprimant les iniquités et les meurtres des étrangers qu'on y pratiquait. Comme une foule de volontaires de toute origine accompagnait l'expédition, il fonda une très grande ville qui reçut le nom d'Alésia à cause des courses errantes accomplies durant cette campagne. Il mêla aussi à la population de la ville beaucoup de gens du pays. Comme ceux-ci l'emportaient en nombre, il advint que tous les habitants se transformèrent en barbares. Les Celtes, au nord de nos jours encore, cette ville où ils voient le foyer de la métropole de toute la Celtique.
Alors, voilà. on est là dans un papier que je ne...
Ouais, je vais vous le faire passer.
Je ne connais pas, mais... Qui raconte une mythologie en fait. Ou des choses que les archéologues ne peuvent pas du tout appréhender. Il ne s'agit pas non plus manifestement de textes historiques sur lesquels ces considérations sont basées. Donc moi, je suis plutôt archéologue, donc je m'intéresse au terrain et à la fouille et à ce que ça peut nous livrer. Et anecdotiquement, je m'intéresse aux textes. Mais si vous voulez, dans les textes, on leur fait dire ce que l'on veut. Par exemple, le terme édificia que l'on a vu au départ, il a connu une évolution de traduction au fur et à mesure que l'archéologie a eu des nouvelles avancées. Et maintenant, ce terme, il est rangé dans l'histoire de la recherche parce que c'est les Gaulois eux-mêmes qui nous parlent d'eux. Avoir 1000 sites fouillés, c'est comprendre la manière dont ils vivaient, la manière dont ils procédaient, les agricultures et les élevages qu'ils pratiquaient. Et c'est davantage sur ces indices tangibles que j'essaye de construire mon raisonnement que sur des fragments épars rassemblés à droite à gauche qui n'ont pas un intérêt très prononcé pour moi.
Vous avez parlé de nécessité de connaissances approfondies de dessins de type sinon industriel, du moins pas dessins d'architecture,
oui,
sur des connaissances précises de connaissances des matériaux, de connaissances de fabrication.
Mmh.
Est-ce que on peut savoir, on peut repérer si au cours des siècles, il y a eu une transmission systématique à des personnes de la même lignée, de la même catégorie, du style, du style école.
Du style école. Alors, là, vous savez, c'est plutôt les druides qui transmettent logiquement leur savoir, qui n'était pas écrit, et donc il s'agit d'une transmission orale. L'apprentissage ou le suivi d'une école dans les sites que l'on a, c'est pour l'instant c'est encore malheureusement très 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 prématuré. Mais une chose est sûre, et je pense que si vous étiez à la conférence de Laurent Olivier la semaine dernière, je pense qu'il a dû vous montrer les règles très précises pour l'ornementation, pour la confection de certains objets. Qui renvoie à des connaissances extrêmement précises des mathématiques.
Voilà, et des mathématiques
tout à
aussi,
fait,
oui.
Tout à fait. Donc avec des rosaces et des rorosaces, mm-hmm, etc., qui permettent d'obtenir des visions différentes selon l'angle qu'on regarde un objet. Donc oui, il y a vraiment une très très bonne connaissance des règles.
Mais
on ne va pas employer le mot de pythagoricienne, mais on n'en est pas très loin.
Oui. Mais alors, ça, ce n'est pas du domaine des druides. Ce n'est pas les druides qui allaient enseigner à l'artisan ou à la personne, enfin même dans chaque domaine.
Les druides peuvent être également artisans. Après, définir les différentes... Alors, c'est une question très pointue et très intéressante parce qu'il y a eu un collègue qui a travaillé pendant très très longtemps sur le décor des épées. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait un artisan extrêmement spécialisé dont il arrivait à suivre les productions tant en France que dans les pays voisins, notamment la Hongrie. Des pièces maîtresses qui voyagent et qui vont dans une haute aristocratie parce que c'est cet artisan qui est attaché à un réseau social très élaboré. Ce même un collègue a pu montrer que, en plus, par exemple, quand l'épée était donnée, un jeune, avant les cérémonies d'adoubement telles qu'on peut les imaginer au Moyen-Âge, il n'y avait qu'un petit décor qui ornait cette épée, et qu'au fur et à mesure de ses exploits, des décors étaient rajoutés sur le fourreau de l'épée. Donc il y a une véritable lecture, par exemple, des décors qui sont sur ces épées qu'un jour, peut-être, on arrivera à décrypter, parce que les Gaulois, eux, en voyant cette épée, devaient immédiatement traduire les insignes qu'elle portait. Mais c'est comme si, dans 2000 ans, on retrouvait une Légion d'honneur. Quelle interprétation en ferions-nous? C'est extrêmement difficile à évaluer.
Mais alors, je terminerai peut-être sur ça, le fait que ces connaissances mathématiques, en particulier, que ce soit pour les œuvres d'art, que ce soit pour l'architecture, qui nous fera croire que ça se fasse sans écrit?
Jusqu'au jour où on trouvera quelques écrits.
Parce que, bon, c'est
mais les écrits, on n'a pas fait d'exposé dessus et on l'évoque un petit peu dans le catalogue. On a des traces d'écriture gauloise, notamment des contes. Mais on sait aussi par César, par exemple, que lors de l'immigration des Helvètes, les Helvètes ont écrit le nom des prétendants au départ sur des tablettes de cire gravée. Donc on peut décompter les hommes, les femmes, et, les vieillards, etc. Et on sait aussi par un autre texte que lors des funérailles gauloises, les vivants jettent aux défunts dans le feu des fragments des mots à leur intention. Donc s'il y a des mots, il y a forcément une écriture et forcément des gens qui savent lire. Après, tout dépend des supports. Plusieurs alphabets, à la fois de l'alphabet grec et de l'alphabet romain. Il y a un petit mélange, je crois, mais je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, en fait.
Je voulais vous demander, alors là, ça concerne plutôt la technique de l'archéologue. Quels moyens vous utilisez pour savoir qu'un champ a été ensemencé par plusieurs types de graines différentes en même temps, parce que j'imagine que vous retrouvez les graines fossilisées sur une strate, et qu'elle n'a pas été ensemencée sur des années différentes avec des graines différentes. Donc en fait, ça c'est la première. Oui, il faut que vous ayez de la mémoire parce que j'en ai deux autres. En ce qui concerne les mines, quel genre de déchets polluants vous avez retrouvé par la suite? Qu'est-ce qui peut être vraiment considéré? Parce que vous avez parlé de mines d'or, donc j'imagine, j'aurais juste voulu savoir quels étaient les déchets polluants. Et en ce qui concerne la défense des villes gauloises, vous nous avez montré des murs. Alors moi, j'ai compris que c'était déjà l'époque gallo-romaine. Donc non, c'était l'époque avant la conquête romaine. Donc ça, ce que vous nous avez montré, c'est une technique gauloise en pierre, oui. En pierre en bois.
Oui.
D'accord, donc proprement gauloise. Très bien. Donc en ce qui concerne les deux autres.
Alors, pour le mélange des céréales, ce qu'on a retrouvé, ce sont les céréales se conservent soit sous forme donc carbonisée ou imbibée dans l'eau, ou parfois minéralisée, ce qui est beaucoup plus rare. On retrouve dans certaines structures de stockage des stocks de céréales où on a la présence de plusieurs espèces qui sont stockées en même temps. Et ce qui signifie, notamment dans les silos, qu'elles n'ont pas pu être, puisque le stockage se fait en un moment simultané, qu'elles n'ont pas pu être récoltées à différentes périodes. Donc on a vraiment un stock qui permet de dire qu'il y a la pratique de la méture avec différentes espèces de céréales. L'autre question, parce que je n'ai pas une très bonne mémoire.
Oui, les déchets polluants des mines.
Les déchets polluants, alors simplement pour obtenir du minerai, il faut faire des fourneaux. Et ces fourneaux nécessitent beaucoup de bois et pour les griller. Par exemple, pour extraire l'or, il faut griller les minerais de façon à pouvoir après le concasser et obtenir l'or en question. Et c'est ces feux intensifs, en fait, qui se marquent dans les strates des sols. Donc de la pollution faite sous forme de feu assez intensif.
C'est du bois carbonisé, vous voulez dire ?
Pas seulement, il y a aussi des traces de pollution de gaz carbonique que va dégager ce bois quand il brûle.
Ah, c'est ça.
Et là, c'est des analyses très spécifiques pour analyser. Mais c'est pas.
Vous appelez ça polluant ?
Oui, c'est polluant déjà. Enfin, en tout cas, les collègues spécialistes qui travaillent sur ces questions considèrent que c'est des premières traces de pollution. Mais c'est pas, ça commence dès l'âge du bronze et ça va ne faire que s'amplifier avec la période gauloise. Là aussi, pour rejoindre une des questions qu'on a eues tout à l'heure sur l'intérêt de ces arts de venir en Gaule, c'est qu'il y a effectivement aussi toutes ces mines, tous ces espaces où on fabrique du sel et compagnie. Et en fait, la romanisation ne va être qu'un resserrement, un développement de toute cette richesse qui est déjà potentiellement existante en Gaule.
En ce qui concerne les banquets rituels, est-ce qu'on peut arriver par l'examen des restes, des reliques, savoir s'il y avait une représentation sociale assez large des gens qui fréquentaient ces banquets ou si c'était assez limité au niveau social ?
Alors on suppose que c'est plutôt limité au niveau social, mais là c'est davantage des textes qui nous renseignent. Mais il n'est pas impossible. Alors c'est des questions encore difficiles. Déjà, il n'y a pas eu beaucoup de sanctuaires de fouillés. Et il faut après étudier l'intégralité de leur mobilier. Et la fouille d'un sanctuaire, je le sais parce que j'en ai fait un tout petit bout il y a 2 ans. C'est simplement 2 hectares, donc ce qui est rien par rapport à une ferme, c'est 20 fois plus de mobilier. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mobilier métallique, qu'il faut le radiographier, le restaurer. Et tout ça, ça prend extrêmement de temps et surtout de moyens financiers. Donc pour l'instant, il y a peu de sanctuaires qui ont été étudiés dans leur intégralité. Et donc on n'a que des morceaux de sanctuaires. Et à chaque fois, alors il y a bien quelques ressemblances qui les unissent, mais il y a aussi beaucoup de divergences. Donc on est encore très loin de pouvoir proposer une méthode telle qu'elle est développée pour les fermes, pour valider ces savoirs. Alors, il est possible qu'il y ait d'autres convives conviés aux fêtes lors de grandes manifestations religieuses. Mais pour l'instant, c'est bien difficile de dire qui participe. Il peut y avoir le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang, parce que le cœur du sanctuaire est lui-même entouré d'un très large fossé. Et autour, on a un autre fossé. Et autour, on a encore un autre fossé. Donc, on a plusieurs cercles concentriques comme ça. Donc, il est possible que ça soit dévolu à des populations ou en tout cas des gens de statuts différents. Mais c'est que pure hypothèse. Pas de sanglier pour les Gaulois. 1% de chasse simplement et essentiellement dans les sites aristocratiques. Donc très 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 peu de viande chassée. On suppose que c'est une activité qui est plutôt dévolue à l'élite et qui trouve peut-être un moyen de s'entraîner à la guerre en fait. Mais pas réellement. Alors il y a un petit peu tout en animaux sauvages, mais ça va jamais dépasser. C'est vraiment ridicule dans la diète, quoi. C'est quasiment inexistant. Alors à moins qu'il y ait eu des banquets en pleine forêt d'animaux sauvages et qu'on laisse au-dessus, dans les forêts très reculées. Merci.
Est-ce que par hasard on a retrouvé des traces d'êtres humains sacrifiés dans les enclos de temples? Est-ce qu'on peut penser que ça existait, le sacrifice humain chez les Gaulois?
C'est pas du tout ma spécialité, mais alors sur le sanctuaire que j'ai fouillé, on a 8 personnes qui sont enterrées d'une façon très 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 particulière. Elles sont enterrées accroupies, en fait un peu en position du lotus. Et donc, ils sont 8 et tous sont têtes. Alors, on n'a pas de traces pour dire que c'est sacrifié. Et à côté de ça, on a une petite fosse dans laquelle on a des os humains extrêmement concassés et parfois brûlés à certains emplacements. Voilà, je vous laisse tirer les hypothèses que vous voulez bien en tirer vous-même.